Tite, chapitre 1er, au verset 5. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville, s'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, excusez-moi, qui ne soit ni accusé de débauche ni rebelle, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modérés, justes, saints, tempérants, attachés à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Notre second texte se trouve dans les Actes des Apôtres, au chapitre 14. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 21. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu, ils firent nommer des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Amen. Merci pour le verre d'eau. Alors, je vais juste rappeler une chose, c'est que par rapport à l'établissement des anciens, il y a un processus normal quant à la structuration de l'Église. Il y a d'abord, et on le voit bien dans ce texte des Actes des Apôtres, il y a d'abord l'évangélisation, l'implantation d'Église, car on ne peut pas implanter, je veux dire, on ne peut pas établir des anciens s'il n'y a pas d'église auparavant. Donc il y a l'évangélisation, puis la formation des disciples, l'enseignement, et une fois que cela est fait, il y a la structuration de l'église, l'organisation de l'église, avec ici la nomination des anciens dans chaque église. On retrouve ça aussi dans l'épître de Paul à Tite. Tite a été laissé en Crète, des églises ont été implantées sur cette île et bien sûr, tout n'a pas été réglé, j'allais dire, de suite. Et la preuve en est, c'est que Paul volontairement a laissé Tite en Crète pour qu'il établisse des anciens. Les églises ont été donc implantées, mais il restait à organiser les églises et ce fut la mission qui était confiée à Tite. Alors, il y a donc un processus normal par rapport à l'établissement des anciens. Il nous faut donc déjà implanter des églises, former, enseigner et puis, bien sûr, établir des anciens et que Dieu nous aide. Les anciens, dans la parole de Dieu, on le voit dans les Actes des Apôtres, on le voit aussi dans les Épîtres, avaient pour fonction, si je peux m'exprimer ainsi, certaines choses. Et je rappelle ce que je disais la dernière fois, qu'il y a dans le terme grec deux expressions, deux mots pour désigner les anciens. Il y a le terme, excusez-moi pour les termes, presbytéros, qui a donné le mot ancien, et puis le terme épiscopos, qui a donné le mot évêque. Et parfois, il est difficile de savoir quelle est la nuance et la différence. Il y a des verbes, des mots comme ça qui sont synonymes, même dans la langue française, qu'on utilise pour telle situation et qu'on les réutilise. Parfois, il y a quelques petites nuances, mais en fin de compte, on a l'habitude de dire que l'ancien est attaché à la personne, tandis que évêque est attaché à sa fonction, à ce qu'il fait dans l'Église. Alors, que faisaient les anciens ? dans les églises, qu'on trouve dans les épîtres, on voit qu'ils avaient en charge de veiller sur l'Église. Ils veillaient sur l'Église. Donc, dans Actes 20, verset 28, il est dit « Prenez donc garde à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. » Pour paître l'Église de Dieu. L'apôtre Pierre, on peut lire aussi ce texte dans 1 Pierre chapitre 5, verset 1er. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Prêchez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais étant les modèles du troupeau, et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Amen. Alors, il y a plusieurs choses sur ce texte, on y reviendra plusieurs fois, mais ici, on voit aussi que les anciens avaient cette charge de paître le troupeau, de veiller sur le troupeau qui est sous votre garde. Et puis, on le retrouve encore dans d'autres textes de la parole de Dieu. Ils étaient joints aux apôtres pour examiner les questions importantes, surtout en ce qui concerne les points de doctrine et la vie de l'Église. Par exemple, dans Acte 15, il y avait une problématique concernant la circoncision. Et peut-être nous, ça nous cause plus de problèmes aujourd'hui, en tout cas en France, mais dans certains pays, ça peut causer un problème, la circoncision, surtout que là, nous sommes dans le début de l'Église, la majorité, ou du moins les premiers chrétiens étaient d'origine juive, donc ils étaient circoncis, mais avec les missions de l'apôtre Paul qui ont commencé, bon nombre de ceux qui se convertissaient n'étaient pas juifs, donc pas circoncis. Et il y avait une tension qui était arrivée dans l'Église, à savoir que certains disaient « mais pour être sauvé, il faut être aussi circoncis ». Et l'apôtre Paul disait « non, il n'y a pas besoin, la circoncision, maintenant, dans la grâce, n'a plus cette valeur ». Puisque la circoncision, en fin de compte, c'était la marque de l'appartenance au peuple de Dieu qui avait fait une alliance avec Dieu. C'était attaché à un peuple physique. Mais maintenant, eh bien, nous savons que nous sommes appelés à adorer Dieu en esprit et en vérité. Mais ce fut tellement difficile, ce point-là, tellement que ça a créé de tensions, qu'ils ont convoqué non seulement les apôtres, mais les apôtres et les anciens. Donc les apôtres ont pris une décision, mais pas uniquement eux. Les anciens aussi sont venus et ensemble, ils ont pris une décision pour ne pas imposer aux païens la circoncision. Vous voyez ? Donc, et aujourd'hui encore, il peut y avoir des sujets de la vie d'Église qui sont importants, des sujets sur l'orientation de l'Église, orientation spirituelle de l'Église, des sujets de doctrine, et il est important que les anciens soient associés à ces discussions-là. On voit que les anciens dirigeaient ensemble les églises locales. Et l'apôtre Paul le dit bien, dans ses épîtres à Timothée, où il parle des anciens. On voit aussi que les anciens et j'allais dire imposer les mains au ministère qui était reconnu de l'Église. Par exemple, dans 1 Timothée chapitre 4, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Alors là, ce n'est pas l'imposition des mains, vous savez, quand on prie pour un malade, par exemple, mais c'était pour prier pour celui qui allait se préparer à un ministère dans l'œuvre du Seigneur. Donc les anciens étaient associés à cela, à cette prière. Il n'y avait pas, et tout à l'heure je ferai un peu la différence, il n'y avait pas le pasteur uniquement qui était là, mais les anciens de l'Église, car les ministères sortent de l'Église. Faut bien, ils sont éprouvés par l'Église, reconnus par l'Église. Lorsque nous étions dans une autre église en France, il y a eu un jeune qui s'est levé, parce qu'il y a eu un appel authentique dans sa vie, pour servir le Seigneur dans un ministère pastoral. Et lorsqu'il a commencé son stage, puisqu'il faut quand même aussi faire un stage pastoral, eh bien, j'ai demandé aux anciens aussi de prier pour ce jeune frère qui se levait pour ainsi répondre à l'appel que Dieu avait mis dans son cœur. Donc les anciens priaient pour cela. Ils pouvaient être demandés aussi à prier pour les malades. Par exemple, dans Jacques chapitre 5, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. Oui. Quelqu'un de malade pouvait demander aux anciens de l'Église de venir prier pour lui avec l'onction d'huile. Le malade étant séparé de la communion fraternelle à cause de sa maladie, du coup, c'est la communion fraternelle qui vient à lui. C'est-à-dire, ne pouvant pas venir à l'Église, c'est l'Église qui vient à lui lorsqu'il fait appel aux anciens. Les anciens viennent pour prier pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. Que Dieu soit béni, afin que le malade, bien sûr, soit guéri et la prière de la foi sauvera le malade, que le Seigneur soit glorifié. Donc on voit ici que les anciens faisaient beaucoup de choses dans l'œuvre du Seigneur. Il y avait bien sûr d'autres choses. On voit aussi qu'ils avaient recueilli les offrandes qui étaient parvenues par les mains de Barnabas et de Saul de Tarse pour l'aide aux frères et sœurs qui étaient démunis. Alors, à la lecture de tout cela, et on aurait pu encore citer d'autres passages, on voit en fin de compte que les anciens, leur charge ressemble trait pour trait au ministère pastoral. D'accord avec moi, hein ? Ils veillaient sur l'Église, ils pouvaient enseigner, ils priaient pour les malades, ils priaient pour ceux qui étaient reconnus au ministère, ils traiter les points de doctrine avec les apôtres. Donc on voit ici qu'il y a une ressemblance évidente avec le ministère pastoral. Alors vous allez peut-être me poser la question, et je la pose d'ailleurs, quelle est donc la différence avec celui qu'on appelle un pasteur ? Quelle est la différence ? Tout à l'heure, dans 1 Pierre, nous avons lu ce texte, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 1er, Pierre dit ceci: voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux. Vous voyez ? Moi, ancien comme eux. Or, nous savons, puisque le Seigneur a quand même choisi des apôtres, que l'apôtre Pierre faisait partie des apôtres. Il était apôtre. Mais tout en étant apôtre, Pierre se considérait comme un ancien. Comme un ancien. D'ailleurs, Jean, l'apôtre Jean, qui était aussi apôtre, dans sa deuxième épître, au verset 1er, Jean dira ceci, l'ancien. Il se désigne comme étant l'ancien. L'ancien à Kyria l'élu et à ses enfants. Troisième épître, au verset 1er toujours. Il prend la même je vais dire le même terme, l'ancien Agaïus. Là encore, l'apôtre Jean, car il était apôtre, se considère comme un ancien. Il se considère comme un ancien. Donc on voit vraiment qu'il y a des similitudes. Et il est effectivement vrai qu'un apôtre, un enseignant, est aussi un ancien. Alors, quelle est donc la différence? Il me semble avoir dit la semaine dernière que l'ancien est un pasteur local de l'Église, attaché à l'Église locale. Lorsqu'on lit dans Éphésiens chapitre 4, on voit une liste que donne l'apôtre Paul par rapport à ce que nous appelons les ministères apostoliques, c'est-à-dire les ministères qui sont envoyés dans les églises ou qui sont envoyés dans d'autres pays pour établir des églises. Et il cite ici cinq ministères. Il cite le ministère d'apôtre, il cite le ministère de prophète, d'évangéliste, de pasteur et docteur, c'est-à-dire enseignant. Il cite donc cinq ministères, ce qui parfois amène la confusion, c'est qu'on appelle tout le monde pasteur. On appelle tout le monde pasteur. Même si celui qu'on appelle pasteur a plus un ministère d'évangéliste, a plus un ministère de docteur, a plus un ministère d'apôtre ou de prophète. Mais d'une manière pratique, on appelle tout le monde pasteur. Mais il ne faudrait pas quand même oublier que parmi ceux qu'on appelle pasteurs, certains sont apôtres, certains sont prophètes, certains sont évangélistes ou vraiment pasteurs dans le sens du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui suit les âmes, qui soigne les âmes. Et puis, il y a aussi des docteurs. Or, ça simplifie les choses d'appeler tout le monde pasteur, car il ne me viendrait pas à l'idée, si j'allais trouver la préfecture ou une autre administration française, de dire « voilà, je suis le prophète ou l'apôtre ou l'évangéliste un tel ». Comprenez qu'il me regarderait un petit peu comme ça. Le terme pasteur est bien compris de l'administration française. Ouais. Alors, c'est vrai que dans certains pays, ça pose peut-être moins de problèmes, quoique certains parfois s'autoproclament apôtres ou s'autoproclament prophètes des nations. Mais en fin de compte, vous ne pourrez pas oublier une chose, c'est que on n'a pas à s'autoproclamer. C'est l'Église qui reconnaît les ministères. Ils sortent de l'Église, ils sont éprouvés par l'Église. Et c'est à l'Église de reconnaître le ministère et l'appel que Dieu a mis sur la vie de quelqu'un. Oui, ce qu'on appelle pasteur, la différence peut-être avec les anciens, ce qu'on appelle anciens, mais qui sont des pasteurs locaux, attachés à l'Église, c'est que ces pasteurs étant des ministères apostoliques sont appelés à bouger. Tite était en Crète, mais on voit que, bien sûr, ça n'a pas été la seule mission de Crète. Il n'est pas resté en Crète toute sa vie. L'apôtre Paul n'est pas resté au même endroit toute sa vie. Timothée n'est pas resté aussi au même endroit toute sa vie, même si à un moment donné, il a été attaché à l'église d'Éphèse. Mais on sait que Timothée a tourné dans d'autres églises aussi. Il avait un ministère de pasteur. Parfois, certains disent que Timothée était plus évangéliste. Peut-être que son ministère a aussi évolué parce que rien n'est figé. Quelqu'un qui a reçu un ministère peut aussi, dans le temps, recevoir du Seigneur une autre qualification, un autre don. Il en est de même, d'ailleurs, pour les anciens et pour les diacres. On voit, par exemple, Philippe, qu'on appelle l'évangéliste, il faisait partie des sept premiers diacres. Mais, à un moment donné, eh bien, voilà, il y a eu un ministère d'évangéliste qui s'est confirmé dans la vie de Philippe et il a pu évangéliser notamment la Samarie, puis d'autres régions du territoire d'Israël. Donc voilà la différence que l'on peut noter avec les anciens, c'est-à-dire ceux qu'on appelle anciens, et ces ministères apostoliques ont aussi, la responsabilité d'encourager, d'exhorter les anciens. L'apôtre Pierre adresse ses exhortations aux anciens. On voit aussi que Paul a convoqué les anciens d'Éphèse, il y en avait plusieurs, et là, il leur a dit certaines choses, il les a exhortés à certaines choses, il les a appelés à la vigilance, et ils veillaient ainsi à la cohésion de l'ensemble du collège des anciens. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous aide à pouvoir voir ce que le Seigneur demande à son Église. Il y a des conditions, bien sûr, nous avons lu tout à l'heure dans Tite certaines conditions par rapport au sens à ces anciens. D'ailleurs, même certains pouvaient aspirer à l'être, mais il fallait que ces anciens soient, en fin de compte, on pourrait résumer en disant des frères qui aient un bon témoignage, des frères qui soient un exemple, des exemples de l'Église pour l'Église et dans l'Église qu'ils étaient. Alors, comment ces anciens étaient établis ? Je ferai rappeler une chose importante, c'est que c'est le Saint-Esprit qui est établi. C'est le Saint-Esprit qui est établi. Dans Actes 20, verset 28. Actes 20, verset 28. Alors là, Paul utilise les deux termes. Il s'adresse aux anciens, il fait convoquer les anciens. On ne va pas lire tout le chapitre 20 des Actes des Apôtres. Et là, il va employer aussi le mot évêque. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son sang. Donc, c'est l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son sang et c'est le Saint-Esprit qui établit. Bien que ça soit clair, ce n'est pas un homme. C'est le Saint-Esprit qui établit. C'est le Saint-Esprit qui établit. Et il y a là un assentiment, bien sûr, des frères et des sœurs. Il ne faut pas chercher à avoir des anciens à tout prix s'il n'y en a pas. L'apôtre Paul, dit à Tite d'établir dans chaque ville des anciens s'ils s'y trouvent. Donc s'ils ne s'y trouvent pas, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut attendre. Attendre parce qu'il y a peut-être un besoin, l'Église n'est pas prête à cela, parce qu'il y a peut-être un besoin encore de formation, il y a encore un besoin d'enseignement, certains le sont peut-être en devenir, certains vont l'être, mais ils ont encore besoin de faire, j'allais dire, leur preuve, de mûrir dans la foi, et peut-être dans quelques années ils le pourront, mais s'ils s'y trouvent, oui alors, vas-y, mais s'ils ne s'y trouvent pas, il faut encore attendre. Parce que, eh bien, l'Église n'est pas prête à cela. Alors, le Saint-Esprit établit, et c'est lui qui suscite des vocations, c'est lui qui établit ses frères dans l'Église. Il n'y a pas de cérémonie d'ordination. Il faut que ça soit clair. Alors, bien sûr, on prie pour eux en leur imposant les mains, mais ce n'est pas une ordination. Comprenez ? C'est juste une recommandation, d'ailleurs, on les recommande au Seigneur pour l'œuvre à laquelle il les a appelés, que Dieu soit béni. Amen. Rapidement, quelques mots sur les diacres. Alors les diacres, il y a un mot en grec. D'où vient ce mot qui a été, en fin de compte, on a francisé un mot grec, c'est le mot diakonos. Mais ce mot diakonos, c'est le mot serviteur. C'est aussi le mot qui a donné ministre. C'est donc un serviteur. Il y a deux mots en grec pour désigner les serviteurs. Il y a le mot donc diakonos et le mot doulos, qui a donné esclave. Et l'apôtre Paul, se parlant de lui-même, emploie parfois le mot diakonos, il est serviteur, mais aussi le mot dounos. Il dit qu'il est esclave de Jésus-Christ. Esclave de Jésus-Christ. Les diacres, on le voit dans Actes 6, eux aussi devaient être des frères de qui on rend un bon témoignage, remplis du Saint-Esprit, qui soient des exemples pour l'Église. Les premiers donc étaient en charge d'une charge humanitaire, on pourrait dire sociale, puisqu'ils distribuaient les aides pour les veuves de l'Église qui avaient des besoins. on voit dans d'autres textes de la parole de Dieu aussi qu'il y avait des exigences, tout comme il y en avait pour les anciens. Il se devait donc des frères, ou des sœurs d'ailleurs, qui devaient aussi, de même que les anciens, ne pas être adonnés au vin, etc. Les mêmes, il y a quasiment les mêmes exigences qui sont données pour les diacres. Cela pouvait être des sœurs. On a l'exemple dans la parole de Dieu. Par exemple, il y a Phoebé. Phoebé, dans Romains, chapitre 16. Romains, chapitre 16. Dans la version, le second 1910, je vais la lire dans cette version-là, mais il y a peut-être quelques nuances dans d'autres versions. « Je vous recommande Phoebé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle en a donné aide à plusieurs et à moi-même. » Donc l'apôtre Paul cite ici une sœur qui est diaconesse. Alors là, il emploie le mot que je disais tout à l'heure en grec. Ce mot d'ailleurs qu'il emploie pour désigner le ministère de Timothée. C'est assez curieux que l'apôtre Paul emploie ce terme-là. Mais c'est pour dire que les sœurs aussi étaient appelées à ce service-là dans l'Église, qui était un service très utile au sein de l'Église, et qu'il nous fait montrer un petit peu comment l'Église était organisée. Alors il y a d'autres cas dans la parole de Dieu, je ne vais pas les citer tous, il y a même d'autres cas de sœurs qui étaient diacres dans l'Église. Alors que Dieu nous aide vraiment à comprendre ce qu'il veut pour l'Église, et qu'il nous aide aussi à comprendre que rien n'est figé. Rien n'est figé dans l'œuvre de Dieu, c'est une œuvre vivante. L'Église est une œuvre vivante. Ce n'est pas un monument, l'Église. On a bien compris. Et gardons-nous à ce que nos traditions ne nous fichent pas dans quelque chose. Et rien n'est figé dans l'Église. Des ministères peuvent évoluer. Il nous faut comprendre aussi que l'œuvre de Dieu a besoin de s'organiser, et parfois les organisations changent. Une organisation n'est pas figée non plus. On a besoin parfois de revoir la manière dont nous organisons l'Église afin qu'elle soit le mieux adaptée à ses besoins, mais aussi pour atteindre sa génération, pour accomplir la mission que le Seigneur lui a confiée, que le Seigneur lui a donnée de pouvoir accomplir. Alors, merci Seigneur. On va prier ensemble, Seigneur. Après quoi, je vous demanderai encore 5-10 minutes avant de clôturer ce culte, mais on va prier le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour les frères qui sont au milieu de nous. Merci Seigneur pour les sœurs aussi qui sont investies au milieu de nous. Et te prions pour eux. Merci pour ton Église, Seigneur. C'est toi qui en es le souverain. Pasteur, c'est toi qui en es le maître, c'est toi qui en es le berger, qui sait la conduire, Seigneur. Et nous te bénissons pour l'œuvre ici même, dans cette église, Seigneur, que tu tiens dans tes mains depuis tant d'années, Seigneur. Et merci pour ce que tu veux l'amener, vers où tu veux l'amener, Seigneur. À toi soit toute la gloire. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit afin qu'il nous équipe avec les dons qu'il communique, Seigneur, afin qu'il nous aide à organiser ton Église, que ton nom soit ainsi glorifié. À toi soit toute la gloire, Jésus. Amen.